Alors, si vous voulez, vous joindre à moi, on va aller dans Job, chapitre 23, tout le chapitre, les 17 versets. Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne dénigrera-t-il pas au moins m'écouter? Je serais un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence. Nous nous reconnaissons pécheurs. Seigneur, nous voulons confesser nos fautes, nos péchés de toutes formes. Seigneur, et nous voulons avoir le cœur prêt, disposé à recevoir ta parole, à retirer les principes que tu nous enseignes dans tout ce passage-là et à l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors, Seigneur, on demande que ton esprit nous guide, élimine notre compréhension et, Seigneur, permet qu'on comprenne ce que tu veux nous enseigner ce matin et qu'on mette ça en pratique dans notre vie de tous les jours pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin « Job se tourne résolument vers Dieu lui-même ». Pourquoi il se tourne vers Dieu lui-même? Parce que son expérience avec ses consolateurs a été bien décevante. Chaque fois qu'il leur avance quelque chose, il continue de l'accuser, de dire « si tu vis l'expérience que tu vis présentement, c'est très certainement parce que tu vis dans le péché, parce que tu es un pécheur invétéré et obstiné et volontaire. » Il l'accuse de ça. Si nous, on aurait une épreuve, puis qu'on chercherait à obtenir un petit peu de compréhension de nos frères et de nos sœurs en Jésus-Christ, puis qu'on n'obtiendrait aucun appui, aucune compréhension, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous resterait? Se tourner vers Dieu lui-même. Et c'est exactement ce que Job fait. Il se rend compte que, dans le fond, ses amis, il n'y a pas grand-chose à obtenir d'eux, parce que tout ce qu'il dit, c'est tout du mensonge, c'est tout de l'incompréhension, et c'est de l'obstination à vouloir conserver leur œillère, leur façon de voir, leur vision théologique qui est étroite. Et alors, il veut, à quelque part, dire, ben là, s'il n'y a rien à faire avec mes amis, au moins, il me reste le Seigneur que je peux me tourner vers lui. Alors, Job se tourne résolument vers Dieu lui-même. On va voir dans le texte au moins trois divisions. Il va se tourner résolument vers Dieu lui-même en le recherchant. Versets 1 à 7. Vous allez voir que l'idée des versets 1 à 7, c'est vraiment, il cherche Dieu, il le recherche. Dans les versets 8 à 12, il trouve son réconfort dans le fait de savoir que si jamais j'accédais à lui, parce qu'il nous dit, je le cherche au nord, au sud, je ne le trouve pas, mais si jamais j'aurais la chance devant lui, je plaiderais ma cause et je suis sûr que Dieu dirait, voici, Job, il vous avait dit qu'il était intègre et droit, il y aurait l'approbation divine. Alors, il trouve son réconfort dans le fait que si jamais Dieu permettait qu'il qu'il puisse se présenter devant lui, qu'il aurait ce réconfort-là. Et dans les versets 13 à 17, c'est vraiment une reconsidération. Il va réexaminer les attributs de Dieu. Il va en reconnaître certains, sa souveraineté, et d'autres, mais on va voir qu'il est mêlé un petit peu. On va voir que malgré qu'il connaît beaucoup de choses sur Dieu, qu'il reconnaît des choses sur le Seigneur, il y a aussi un aspect où il est un petit peu mêlé. Je pense que ça nous représente bien. Job nous représente bien. Puis j'oserais même pas me comparer à Job au point de vue intégrité, là. Mais on voit que l'être humain, quand il est vraiment éprouvé fort, qu'il ne retrouve pas de réconfort auprès des siens ou auprès de ses frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? On fait exactement comme lui. On s'en va auprès de Dieu. On cherche du réconfort. Bon, on dit, si eux ne me comprennent pas, mais toi, au moins, tu me comprends, puis je sais que tu me donnes raison parce qu'il y a toi qui connais toute la vérité sur ma personne puis sur mon histoire. Et enfin, des fois, on sort de toutes ces expériences-là un petit peu confus. On va voir que c'est ça qui arrive à Job. Les derniers versets, 13 à 17, c'est vraiment l'expression d'un petit peu sa confusion. Il dit des choses de Dieu qui sont vraies, qui sont profondes, mais on voit aussi, on va le voir dans les versets, on va les réviser tantôt, on va voir qu'il est aussi un petit peu mêlé. Alors, on avait rappelé, au cours des semaines précédentes, qu'il y avait vraiment trois cycles dans les conversions. Il y a l'histoire, Dieu, d'abord, dans les premiers chapitres, raconte comment il a permis à Satan d'éprouver Job, qu'il perde sa fortune, qu'il perde sa santé, qu'il perde sa famille, ses enfants, et c'est énorme. C'est beaucoup plus profond. Si nous, on pense qu'on a déjà été éprouvé, qu'on prenne le livre de Job, puis là, on va savoir c'est quoi être éprouvé. Avez-vous déjà perdu vos enfants tout d'un coup? Avez-vous déjà perdu tous vos biens tout d'un coup? Avez-vous déjà perdu votre santé au point où Job le sait? Et tout ça en même temps. On a tous été éprouvés, ça c'est sûr et certain, mais comme Job, moins sûr. Alors on a vu que tout ça, ça avait provoqué chez ses amis le désir d'aller le voir et de le consoler. Mais on a vu que Éliphaz, Bildad et Tsophar, toutes les trois, ont une vision limitée. Eux, c'est « si tu vis ça, c'est pour te pécher, puis peu importe ce que Job dit, ça passe pas. » Et on a vu dans les discours précédents que le Seigneur, dans Job 42, on va le relire, même on va relire 7, mais on va aller dans Job 42, ça va à peine parce que on voit le jugement divin sur les interventions des amis. 7, et on peut même dire 8. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, ça c'est vraiment la fin du chapitre, il est en train de Dieu a parlé à Job, Job a reconnu son péché, a reconnu son affaire, et là il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman. Éliphaz de Théman, c'est justement celui avec qui on est en train de parler, c'est le plus vieux. Il dit, ma colère s'est enflammée contre toi. Je ne sais pas si on se rend compte de la profondeur de ce qui est dit ici. Là. Dieu est en colère contre les trois amis. Est-ce que les Écritures nous disent qu'ils n'étaient pas des croyants? Les Écritures nous disent qu'ils étaient des croyants parce que Job a prié pour eux, puis Dieu a répondu. Mais il leur dit pourquoi il répond. Il dit, ma colère est enflammée contre toi, et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, le verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Il est en train de dire toute la façon dont vous avez parlé de moi et toute la façon dont vous avez traité mon serviteur vous mériteriez que ma colère se déverse sur vous. » On ne se rend peut-être pas compte dans le texte ici, mais la colère de Dieu, c'est vraiment la condamnation en enfer. Et c'est profond aussi. Dieu dit qu'il n'est pas de bonne humeur avec eux autres, parce qu'ils ont mal parlé. Ils auraient dû parler mieux que ça. Alors, on sait que Dieu n'approuvait pas les réponses et les tentatives de consolation des trois amis. Cependant, comme on a vu au cours des leçons précédentes, on a vu que tout ce qu'il disait n'était pas du mensonge. Il y avait des vérités, mais il avait oublié que Dieu pouvait éprouver une personne pour des raisons autres que uniquement punir pour le péché. Il y avait l'épreuve, il y avait le test, comme on a vu dans les autres leçons. Chose intéressante à se souvenir aussi, c'est qu'on avait parlé des trois cycles. Donc, le premier cycle, c'est Éliphaz parle, réplique de Job. Bildad parle, réplique de Job. Tsophar parle, réplique de Job. Et ça se produit trois fois. C'est pour ça qu'on appelle ça trois cycles. 1, 2, 3 parle, Job répond. 1, 2, 3 parle, Job répond. 1, 2, 3 parle, Job répond. Si vous étudiez les premiers chapitres, c'est vraiment ça. Là, on est rendu dans le troisième cycle. Et c'est le premier, le plus vieux, qui a parlé la semaine passée. Alors ici, on a la réponse de Job dans le chapitre 23 et dans le chapitre 24. On va y aller un chapitre à la fois parce que c'est des gros morceaux de 17 versets. Alors là, dans le sermon précédent, si on veut comprendre la réponse de Job à Éliphaz, il faut essayer de se rappeler qu'est-ce qu'Éliphaz avait dit à Job. Alors Éliphaz avait pris l'initiative d'utiliser, on l'avait dit la semaine passée, un raisonnement fallacieux pour réprimander Job et pour l'accuser. Tu dis que tu es innocent, mais tu n'es pas innocent, tu es coupable. Et il l'avait accusé sans preuve. Être accusé sans preuve, ça fait mal. Sans preuve de grande méchanceté. Job nous dit plus loin qu'il a toujours été intègre, il a toujours fait attention à sa façon d'agir avec ses enfants, avec ses serviteurs, avec tout le monde qui l'entourait. Alors, il l'accuse de méchanceté. Il l'avait accusé aussi de graves péchés et il les avait énumérés. On s'en souvient-tu, c'est quoi? L'extorsion. Extorsion, ça veut dire tu prends un pauvre puis tu essaies d'exploiter un pauvre encore davantage. Il avait eu la cruauté. Il lui disait qu'il était cruel parce qu'il ne donnait pas à manger aux personnes, qu'il ne donnait pas à boire à ceux qui avaient soif. L'inhospitalité, pour les Orientaux, l'inhospitalité, c'est un grave péché. Il l'avait accusé aussi de dictature oppressante. Un dictateur, ceux qui ont déjà suivi l'histoire, quand un dictateur est oppressant, il ne laisse pas parler le monde, il les écrase. Il avait dit, à cause de ta richesse, à cause de ton pouvoir, tu vas toujours écraser tout le monde autour de toi. Et Dieu est en train de te punir à cause de ton péché. Et il l'avait accusé aussi d'être impitoyable. T'es sans pitié vers la misère des hommes. Il avait aussi prétendu que Job ignorait les attributs divins de la souveraineté. Est-ce que Job avait ignoré? Non, non. Et est-ce qu'il l'avait accusé aussi d'ignorer la suprématie de Dieu en toutes choses? Il l'avait accusé de ne pas prendre conscience de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Autrement dit, non seulement tu es en train de dire tu as fait ça pour pécher, mais tu ne connais même pas Dieu, tu ne sais pas qui il est, puis comment il fonctionne. C'était beaucoup, là. Il avait affirmé que Job ignorait volontairement les leçons divines et les jugements des hommes méchants dans l'histoire. Alors, on avait vu que Éliphaz, comme ses deux amis, était véritablement acharné et aveuglé pour conserver leur vision théologique. Alors, il avait invité Job à la repentance. Imaginez-vous quelqu'un qui mène une vie droite, puis qui se fait dire, ben là, repends-toi, puis ça va se replacer, là. Il avait fait miroiter des choses. Si tu fais ça, Dieu va te rétablir. Dieu va te montrer c'est quoi les véritables richesses. Pas l'or de la terre. Trouver tes délices en lui. Dieu va te donner aussi de trouver tes délices en lui. Et Dieu va te donner une vie de prière bénie. Donc, tu vas prier et Dieu va répondre. Et il avait dit qu'il aurait du succès dans ses entreprises, que Dieu le réconforterait et qu'il deviendrait utile pour les autres. C'était beaucoup, là. Et là, chapitre 23, c'est Job, après que tu as tout reçu ça là, de son ami, quel autre choix qu'il y reste. Ils ne comprennent pas. Ils s'acharnent dans leur vision. Alors, on l'a vu tantôt, Dieu lui-même amène son jugement dans les versets, dans 42, 7 et 8, et Dieu dit qu'il est en colère. Puis Dieu dit, tout à l'heure on a vu que vraiment, si ça n'avait été de l'intervention et de la prière de Job, il aurait goûté là, les trois amis. Alors Job avait tout tenté pour convaincre ses trois amis de son innocence et de son intégrité, mais sans succès. Alors, bien entendu, il se voit contraint de se tourner résolument vers Dieu. De là le titre de mon message, Job se tourne résolument vers Dieu. Mais on va voir que les trois divisions, 1 à 7, 8 à 12, 13 à 17, sont vraiment dans le texte que vous lui regardez d'aplomb. Dans les versets 1 à 7, on voit qu'il recherche Dieu pour plusieurs raisons. D'abord, dans les versets 1 et 2, pour se plaindre. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre à Dieu? Ce n'est pas nécessairement mauvais, ça tout dépend de la manière dont on le fait. Alors, ça dit, les versets 1 et 2, « Job prit la parole », donc après qu'il s'est fait tout dire ça par Eliphaz, il a pris la parole et il a dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. » Il est en train de dire que ses souffrances sont tellement importantes qu'il n'a presque pas le choix. Il dit, « Je suis étouffé. » T'étouffes tellement ça allait, c'est lourd. Et il dit, et il reconnaît comme une sorte de péché, parce qu'il dit, « Ma plainte est une révolte. » Il se rend compte que quand on se plaint trop, ça peut basculer pour devenir que de la rébellion envers Dieu. Alors, il recherche Dieu pour la première raison. Il veut se plaindre à Dieu. Et il reconnaît que c'est presque rendu de la rébellion. Après ça, il dit, versets 3 à 5, « pour plaider ». Là, il se sent avocat un petit peu. Il veut plaider. Parce que c'est ça qu'il disait, verset 3, « Oh, si je savais où le trouver! » Est-ce qu'on a besoin de penser où trouver Dieu? Un croyant, il pense à Dieu, puis il y a des gens à sa présence. Il dit, « Si je savais où le trouver! » C'est comme, il implique qu'il aimerait ça le voir comme en personne, là. Parce qu'il y aurait des choses à lui raconter. Il dit, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône! » Qu'est-ce que les Écritures nous disent pour nous, les croyants? On peut arriver au trône de la grâce comme ça. On peut arriver à son trône. Mais lui, c'est comme s'il disait, si j'avais la chance de le voir dans son trône puis de plaider comme un avocat, et c'est ça qu'il dit dans le verset 4, c'est vraiment une plaidoirie. Donc, il dit, je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Alors, il s'invoqua. Il dit, si je le verrais sur son trône, là, je pourrais plaider ma cause devant lui. Je suis innocent. Mes amis me disent, je suis coupable. Après ça, il remplirait sa bouche d'arguments. Tu sais, Seigneur, que je n'ai pas fait de péché. Il remplirait sa bouche d'arguments. Il en dit, comme les avocats. Puis là, après ça, il dirait, je pourrais savoir ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Autrement dit, si j'avais la chance de plaider comme un avocat devant Dieu, je verrais la réponse de Dieu. Il cherche Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé le passage, versets 1 à 7, il cherche Dieu. Et il y a quelque chose qui nous est dit concernant, dans les trois versets, 3, 4 et 5, il a confiance en l'équité du jugement de Dieu sur son cas. Autrement dit, si j'aurais la chance de te voir, de t'exposer mon cas, je suis sûr que le jugement qui sortirait de ta bouche serait équitable. Une confiance encore en Dieu malgré tout, là. Il peut arriver dans la vie du croyant que les hommes se trompent dans leur appréciation de nos motivations et de nos actions. L'apôtre Paul lui-même a eu à faire face à de telles incompréhensions. Dans notre vie chrétienne, ça peut arriver qu'on veuille faire des choses pour Dieu, mais que même nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ comprennent mal nos motivations et nous accusent de choses dont on n'a rien de ça dans le cœur. C'est Dieu qui est capable de juger nos motivations. Dieu qui est capable de juger nos actions, pas nous. Regardez, Paul, un grand apôtre, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 5, qu'est-ce qu'il dit? « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. » C'est fort ce qu'il dit là. Autrement dit, ça pèse pas lourd en balance que ce que vous pensez. Puis, même pas par un tribunal humain, je ne veux pas être jugé par vous. Après ça, il dit, je ne me juge pas non plus moi-même. Autrement dit, il n'a pas beaucoup confiance en lui-même pour porter un jugement sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense, sur ses motivations. Dans le verset 4, il dit, car je ne me sens coupable de rien. Je me souviens une fois d'avoir dit, j'osais avec un chrétien, je lui avais fait une petite réprimande sur quelque chose. Il m'avait dit, je me sens coupable de rien. Tu te sens peut-être coupable de rien, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas coupable. C'est ça que ça dit, le verset. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Parce que lui, il sait tout. Il a vu tout. Il sait comment tu as pensé, pourquoi tu as pris des décisions. Nous, on ne voit pas dans le cœur des gens. On aimerait bien ça des fois, là, mais on n'est pas Dieu et on ne voit pas dans le cœur des gens. Et dans le verset 5, il dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Dans le cours de votre vie chrétienne, je suis sûr que vous allez vouloir faire des choses bonnes aux yeux de Dieu, puis que vos intentions vont être pures, puis que vous allez être jugé mal par des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Ça, ça fait mal. Mais comme Paul, on se doit de dire, ce que vous pensez, ça pèse pas fort dans la balance. Même un tribunal humain qui essaierait de me juger, ça pèserait pas fort dans la balance. Le seul à qui je sais que je serai rendu justice, c'est Dieu lui-même. Alors, Job est rendu là. Il sait qu'il ne peut pas obtenir justice auprès de ses amis, mais il a confiance que s'il pouvait se comparaître devant Dieu, dans le verset 3. Et dans le verset 4, on a sa confiance en la validité et en la vérité de ses affirmations. Autrement dit, il est en train de dire, ce que je dis, ce que je déclare, ce que j'affirme, je sais que c'est la vérité, puis j'ai confiance que c'est valide aux yeux de Dieu. Alors, Dieu nous donne l'immense privilège de pouvoir entrer en sa présence avec assurance et de pouvoir plaider avec lui en présentant nos arguments. Job met son espérance dans la justice du Dieu juste et véritable. Je me souviens d'avoir déjà lu dans des livres des pasteurs qui faisaient des choses, qui étaient mal jugés par les... Et les personnes n'ont qu'un choix, c'est de tourner vers Dieu. Supposons que vous êtes accusé de quelque chose de faux. C'est vraiment faux. Mais que la rumeur a couru, et tout le monde sont persuadés que vous êtes coupable. Qu'est-ce qui reste aux chrétiens? Parce que tu sais que le Seigneur, lui, il sait tout. Il a tout vu, il a tout entendu. Et si tu n'es pas coupable, tu peux dire, ben, « Seigneur, les hommes ne me comprennent pas. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ ne me comprennent pas. Mais je sais que toi, tu as tout vu, tu as tout entendu et que tu ne me condamneras pas si je n'ai pas péché. » Et dans le verset 5, il veut démontrer sa confiance en la sentence divine. Autrement dit, « Si je sais où le trouver, si je sais me présenter devant son trône, si je remplis ma bouche d'arguments et que je plaide ma cause et que je ne suis pas coupable, » Il a confiance en la sentence de Dieu. Oui, Job, tu as vu une vie d'intégrité, tu as vu une vie de sainteté, et je reconnais cela. Alors que quand Dieu a donné son coup de massue, comme on peut dire, comme juge, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de cour supérieure, puis de cour... Il n'y a pas plus haut que lui, parce que son jugement est parfait. Alors, donc, il est allé, il recherche le Seigneur pour se plaindre, versets 1 et 2, pour plaider, versets 3 et 5, et pour être proclamé, autrement dit, il voudrait que Dieu proclame son innocence, son intégrité. C'est ce que ça dit dans le verset 6. « Emploiera-t-il toute sa force à me combattre? Ne dédaignera-t-il pas au moins m'écouter? » Ce serait un homme droit qui plaiderait devant lui. Alors, il dit, « Je suis un homme honnête, et Dieu saurait reconnaître mon honnêteté. » Et là, il termine par dire, « Si j'aurais la chance de faire tout ce qui a été dit précédemment, et je serais pour toujours absous par mon juge. » Il reconnaît que Dieu est le juge, et il reconnaît qu'à cause de son intégrité, son honnêteté, Dieu finirait par dire, « Innocent. » Alors, il recherche Dieu. Job se sent réconforté à l'idée qu'il obtiendra un jugement favorable de Dieu à cause de sa grande miséricorde et qu'il obtiendra victoire et disculpation. Des fois, ça peut arriver que les hommes, par la justice humaine, soient déclarés non coupables, alors qu'ils le sont véritablement coupables. Mais devant Dieu, quand Dieu dit « t'es pas coupable », ben, t'es vraiment pas coupable. Il n'y a pas de petit jeu de coulisses, des avocats en arrière, puis d'argent, de graissage, de tout ça qui peut se faire dans la justice humaine. Alors, il a confiance que Dieu le disculperait. Tous ses amis, tout son entourage, tous ceux avec qui il avait déjà eu des relations dans le passé, ils ont tous pensé la même chose concernant Job. T'es coupable. Il dit même, le plus petit de ses serviteurs, il crachait sur lui. Méprisait. Alors, si tout le monde qui l'ont accusé entendrait le jugement divin, sa grosse masse, ben, t'es innocent, tout le monde reconnaîtrait son innocence. Alors, il fait ici vraiment confiance à Dieu. N'est-ce pas ce qu'on devrait faire, nous aussi, si on n'est jamais mal incompris des hommes, mal jugé par les hommes, même nos frères et sœurs, de au moins faire confiance que Dieu peut nous donner justice. Et versets 8 à 12, c'est vraiment le réconfort. C'est vraiment l'idée du réconfort qui court à l'intérieur de ces passages-là. Donc, il cherche Dieu, mais il cherche Dieu pourquoi? Pour se réconforter, parce qu'il ne peut ne trouver du réconfort qu'en Dieu, pas dans les hommes. Et dans le verset 8 et 9, il va trouver du réconfort en Dieu malgré qu'il reconnaît qu'il est confus. Est-ce que la souffrance peut nous amener à un point où on est confus dans notre vie? Oui. Alors, c'est ce qu'il dit. « Mais si je vais à l'Orient, n'y est pas. » Autrement dit, les versets, sept premiers versets, il cherche Dieu. À l'Orient, à l'Est. Si je vais à l'Occident, à l'Ouest, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Alors, il dit nord, sud, est, ouest, peu importe la direction dans laquelle je vais pour essayer de le trouver, je ne le trouve pas. Alors, il est malheureux, là. Il est confus. N'est-ce pas? Des fois, un chrétien qui souffre, il peut penser qu'il est abandonné par Dieu. Pourquoi que tu me fais ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Moi, j'ai entendu ça souvent, particulièrement chez des catholiques. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cette chose-là m'arrive? » Alors, on questionne que Dieu, on questionne la manière de travailler de Dieu dans nos vies. Alors ici, au moins, il avoue humblement qu'il ne comprend pas les voies providentielles de Dieu. Et surtout, ses causes. Comprendre que Dieu lui envoie de la maladie, que Dieu lui fait perdre ses enfants, que Dieu, tout ça, il serait capable de comprendre ça. Mais sa question, c'est pourquoi? Pourquoi? Alors, il ne comprend pas. Il reconnaît avoir le jugement altéré par la sévérité de l'épreuve. Il est cependant persuadé qu'il sera finalement innocenté, mais sur plusieurs bases. Dans le verset 10, il veut être innocenté sur le témoignage de Dieu lui-même. Il dit, il sait néanmoins, de qui il parle quand il dit « il » Dieu. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Dieu sait quelle voie Job a suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mais c'est ça qui va y arriver. Il dit, s'il ferait ça, je sortirais pur. Mais c'est ça qui va arriver. Il va être éprouvé, chauffé à blanc, mais il va sortir plus pur, plus fort que jamais. Il dit, c'est derrière moi quelle voie j'ai suivie. Job se rend compte qu'il s'est presque égaré. J'ai trouvé ça dans un livre, j'ai trouvé ça intéressant, l'image. Il s'est presque égaré dans le labyrinthe des décrets ou des conseils de Dieu, tellement ils sont profonds et incompréhensibles. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des images de labyrinthe. Tu as beau t'en aller dans toutes les directions, tu tords vite, tu repars par un mur, tu essaies de te tourner. Un labyrinthe, c'est qu'on dirait que tu ne vois pas l'issue, la façon de t'en sortir. Alors, les conseils de Dieu, c'est la manière, les circonstances que Dieu permet qu'il arrive dans sa vie. Il ne comprend plus rien, puis il se sent perdu. Il se sent perdu dans le labyrinthe. Il a beau essayer de comprendre toutes les bords, tous les côtés, il ne comprend pas. Mais les Écritures nous le disent aussi que les conseils de Dieu sont incompréhensibles. Ils sont profonds. Mais il connaît l'omniscience de Dieu et que Dieu lui-même est un témoin infaillible de son intégrité malgré les accusations de ses amis, entre guillemets. Je mets bien gros les guillemets, là, parce que avoir des amis de même, t'as pas besoin d'ennemis. Et il dit, je vais me réconforter dans le témoignage de ma conscience. Il reconnaît qu'il est confus, première idée. Deuxième idée, il reconnaît que Dieu lui-même est le témoin de son intégrité. Et troisièmement, il dit, ma conscience, regardez, verset 11, mon pied s'est attaché à ses pas. Au pas de qui? De Dieu. Il a toujours voulu suivre, marcher comme Dieu voulait qu'il marche. J'ai gardé sa voie. Il a marché dans son chemin. Je ne m'en suis point détourné. Alors, sa conscience, malgré l'incompréhension des choses qui lui arrivent, dit, Dieu témoin, puis moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai toujours marché dans ses voies. C'est important. Job affirme ici catégoriquement que sa marche a toujours été guidée par la volonté divine. Est-ce qu'on peut en dire autant? Est-ce que notre marche est toujours guidée par la volonté divine qui est exprimée dans les Écritures? Autre chose qu'il dit là-dedans, sa constance et sa détermination dans cette voie ont été irréprochables. Il dit, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné. On voit l'idée de la constance. Non seulement j'ai voulu faire ta volonté, mais ça a été quelque chose de toujours présent à chaque instant dans ma vie. Alors, il est déterminé, il était constant dans cette voie-là, il se sent irréprochable. Et troisième chose qu'il nous dit, qu'il va trouver son réconfort, c'est dans le témoignage de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a trois témoignages. Dieu est témoin, ma conscience est témoin, et la parole de Dieu est témoin. Verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Ici, les commandements de ses lèvres, c'est ce que Dieu dit dans la parole. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est beau, ça. Parce que ça dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. On est en train de commencer une série sur les commandements de Dieu. On va voir que les commandements de Dieu sont profonds, exigeants d'une profondeur qu'on ne peut même pas soupçonner. Je suis sûr que même le plus savant d'entre nous, sur les commandements de Dieu, on comprend. Mais n'importe qui, même le chrétien le plus savant, la profondeur du décalogue et ses exigences divines, c'est d'une profondeur qu'on n'a pas. Alors il dit ici, je n'ai pas abandonné les commandements. S'élève, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Est-ce que nous, notre volonté se plie à chaque fois que Dieu nous commande quelque chose dans les Écritures et on obéit? Parce que faire plier ta volonté aux paroles de sa bouche, c'est ça les paroles de sa bouche. Faire plier ta volonté, c'est quand Dieu, tu sens dans ta lecture, dans un sermon, dans une lecture de ta Bible ou une lecture d'un livre que tu lis, que Dieu te commande quelque chose, il veut te faire comprendre une voie que tu dois abandonner ou une nouvelle attitude que tu dois adopter. Est-ce qu'on plie? C'est là l'affaire, l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, ta vie, c'est du mensonge. Alors, les expressions, les commandements de ses lèvres et les paroles de sa bouche font référence, bien entendu, à la place que Job accorde à la place, à la parole de Dieu dans sa vie. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas la Bible complète. Il y avait une certaine forme de révélation, mais ce qu'il connaissait de Dieu, il se pliait. Nous, on est bien plus chanceux que lui. On a toute la révélation. L'affaire est, est-ce qu'on se plie notre volonté à ce qu'il demande? Alors, bien entendu, il explique qu'il n'a pas abandonné, qu'il a fait plier sa volonté à la volonté révélée de Dieu. Bien entendu, ces expressions illustrent que Job obéit à la parole de Dieu, qu'il la considère comme ayant autorité. Si quelqu'un te dit quelque chose, puis tu l'accomplis, c'est parce que tu accordes une certaine autorité à la personne qui te commande. Alors, donc il dit, il la considère comme ayant autorité, et très certainement qu'il la considère comme précieuse et nécessaire sans ça. Si tu ne considéreras pas qu'obéir à ce qu'il te demande t'apporte un certain bénéfice, du moins dans ton rapprochement avec Dieu, puis dans les bénédictions que tu peux en recevoir, tu ne le ferais pas. Alors, il montre que la parole pour lui avait autorité, qu'elle était précieuse et qu'elle était nécessaire, et qu'il l'avait toujours priorisée et valorisée dans sa vie quotidienne. Pour faire ce qu'il a dit là, juste dans le verset 12, là, je pense qu'il y a une leçon importante pour nous aujourd'hui. Lire la parole, c'est précieux, c'est nécessaire, Dieu parle avec autorité. Mais moi, je dirais la dernière phrase, c'est peut-être la plus importante pour nous comme application aujourd'hui. La prioriser, puis la valoriser dans nos vies, ça c'est un autre game, excusez-moi le mot québécois, mais une game. Une game, ça veut dire que est-ce qu'on lui accorde la priorité qu'elle se devrait dans notre vie? Je me souviens d'avoir déjà lu, par rapport à la lecture de la parole de Dieu, j'avais lu dans un livre, « Je ne me permets pas de déjeuner avant d'avoir lu ma parole. » Autrement dit, moi, personnellement, le matin, quand je me lève, j'ai faim. Et si je disais, « Marcel, tu ne mangeras pas tant que tu n'as pas lu ta parole avec attention et en prière. » Ça, c'est vraiment une priorisation. Dieu est plus important que mon bedon. C'est ça que tu es en train de dire à Dieu. Prioriser la parole, c'est de lui donner la première place dans ta vie. Et la valoriser, c'est de lui donner de plus en plus de place. Parce qu'au défaut, au début de notre vie chrétienne, on peut lui donner... Prioriser, ça dépend. Il faudrait parler avec chacun, voir vos habitudes. Mais valoriser, ça veut dire que c'est plus important que n'importe quoi d'autre dans votre vie parce que c'est Dieu qui vous parle. On a tellement de misère avec ça. Ça nous prend des années avant d'apprendre que la parole de Dieu est riche, est profonde, est bénissante. Puis pourtant, parfois, on va chercher notre satisfaction ailleurs qu'en lui. Pourtant, la parole nous dit que le seul endroit où on peut trouver la véritable délice, la véritable satisfaction de l'âme, c'est en Dieu lui-même. Si on va chercher ça ailleurs, puis on ne priorise pas les choses correctement, et on ne valorise pas la parole, ben on va voir ce qui va avec. Et la troisième partie, je vous avais parlé, ça l'amènerait tout cela à reconsidérer certaines choses concernant Dieu, versets 13 à 17. Il va y avoir une reconsidération plus claire sur certains aspects du caractère de Dieu. Et vous, dans le verset 13 et 14, il dit, « Mais sa résolution est arrêtée. » La résolution de qui? De Dieu. La résolution de Dieu, autrement dit, ses décrets, les voies providentielles qui concernent le déroulement de ta vie quotidienne, est arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, de toute éternité, a décrété chacun de nos circonstances à tout le monde, sans exception, même les inconvertis, mais d'autant plus pour un croyant qui se doit de considérer et de comprendre cela. La résolution de Dieu est arrêtée, qui s'y opposera? Comment tu voudras dire à Dieu, ce que tu as décidé sur moi de toute éternité, je veux rien savoir, ça ne s'accomplira pas, d'après vous? ça va-tu aboutir à quelque part, cette affaire-là? Alors, il dit, « Ce que son âme désire, l'âme de qui? » L'âme de Dieu. « Ce que son âme désire, il l'exécute. » Autrement dit, il est en train de parler des décrets providentiels de Dieu, de toute éternité concernant nos circonstances quotidiennes de tous les jours, de chaque instant. Après ça, il dit, « Il accomplira dans ses desseins, il parle encore des circonstances ou des décrets de Dieu, il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. » Il est en train de dire, « Dieu contrôle. » Dieu est en train d'exécuter, de dérouler ce qu'il avait décidé dans ta vie de tout instant. Pourquoi on rue tant dans les bras encore quand Dieu nous envoie des choses difficiles? Parce qu'on a de la misère à reconnaître que ça vient de sa main. On a de la misère à reconnaître que ce qu'il nous envoie, c'est pour notre plus grand bien. On a beaucoup de misère. Alors, dans le verset 13a, la première partie du verset 13, qu'est-ce qu'il va reconnaître sur Dieu qu'il connaissait déjà, mais que c'est encore un petit peu plus fort? La nature de Dieu lui-même, ses attributs et ses décrets sont immuables et ne changent pas et ne changeront point. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ça, on peut dire, hein? Oui, c'est vrai, moi, je n'ai plein. Vous en avez plein aussi, j'en suis sûr. Et il dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a plein de projets, mais les choses qui vont se réaliser, c'est parce que Dieu avait décrété que ça se réaliserait dans nos vies. Peu importe ce que c'est, là, la maladie, chômage, peu importe. Dieu a décrété les choses. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Malachie, chapitre 3, verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Acte 15, verset 17 à 18. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. D'après vous, y a-t-il quelque chose qui arrive dans vos vies que Dieu ne connaissait pas depuis le début? Mais si les choses qui vous arrivent sont connues de Dieu depuis le début, c'est parce que c'est lui qui avait décidé que ça se passerait ainsi. Mais sans nous enlever notre liberté, c'est ça qui est difficile à comprendre en théologie. Tu dis, si c'est Dieu qui a décidé qu'est-ce qui était pour arriver, ben je ne suis pas responsable. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, oui, j'ai décrété, mais c'est toi qui es responsable de ton devenir. Je t'ai gardé ta... Dieu connaissait ta liberté, savait de quelle façon tu étais pour agir au cours de toute ta vie, sans exception, les moindres petites secondes, mais il reste que tout ce qui t'arrive dans ta vie avait déjà été décrété de toute éternité. Dans le verset 13b, donc, on a vu que la première partie, c'est qu'il reconnaissait l'immuabilité de Dieu. Dieu ne change pas. Dans la deuxième partie du verset 13, on va voir son omnipotence. Il dit, tout ce qu'il dit ne sera pas, il l'exécute, parle de l'exécution. Donc, si on va à d'autres endroits des Écritures pour voir ce qu'est-ce que l'Éternel déclare? Est-ce qu'il déclare encore ça, qu'il est omnipotent pour que ses décrets s'accomplissent? Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et on pourrait aller chercher beaucoup d'autres versets. Dans le verset 14, qu'est-ce qu'il reconnaît sur Dieu? C'est la souveraineté de Dieu et son gouvernement universel. Autrement dit, ses décrets. Le Seigneur gouverne tout dans l'univers, aussi bien l'infiniment grand que l'infiniment petit. Sa performance dans l'exécution de cette tâche est parfaite et admirable. C'est ça qu'on a de la misère, nous autres. Parce qu'il fait des choses, puis on n'aime pas ça, puis là on souffre, puis là on se dit, ben là, il doit s'être trompé. Moi, c'est pas ça que j'ai besoin, là. Moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et Dieu m'envoie d'autres choses. Donc, tu comprends pas, tu questionnes ses voies, tu te penses plus sage que lui. C'est ça qu'on fait, un grave péché qu'on fait. Moi, j'aime beaucoup Romains 11, 33, 36. J'ai pas pu résister de le mettre dans le sermon. Parce que c'est tellement profond, ce verset-là. Ces trois versets-là, vous pourriez passer votre vie à comprendre et ce qu'il dit. Puis, je suis pas sûr que vous n'auriez assez. Parce que c'est tellement profond. Romains 11, 33, 36, c'est Paul qui, après avoir regardé comment Dieu avait emmené son salut dans la vie des hommes sur la terre, et là, il est dans un moment d'admiration. C'est vraiment là, il termine une section de Romains, là, et il finit par ça. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables. Quand on parle de jugement dans le texte, je me souviens d'avoir prêché sur ce texte-là dans cette église, c'est ses décrets. Tout ce que Dieu a décrété, là, ça nous dit que c'est riche, que c'est sage et que ça fait partie de la science de Dieu. Et il nous dit que ces décrets-là sont insondables. On a déjà parlé de l'idée de sonder. Je prends un fil, puis j'accroche un fil de plomb, puis je le descends, puis je le fais descendre, puis je le laisse descendre. À un moment donné, je vais entendre, pouc, je vais atteindre le sol, mais les jugements de Dieu, tu vas laisser descendre, tu vas laisser descendre. Il n'y en a pas de fond. Insondable. Tu ne peux pas sonder ça. L'être humain n'est pas assez fort pour sonder ça. Et autre chose qu'il nous dit, ses voies, les chemins qu'il choisit, qu'on va traverser dans la vie, qu'on va marcher dedans dans la vie, sont incompréhensibles. N'est-ce pas ce que Job vit, là? Il comprend pas ce que Dieu permet qu'il arrive dans sa vie. Nous, on comprend parce qu'on a lu, on est rendu au chapitre 42. Mais pas lui. Lui, il sait pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Il va comprendre juste quand Dieu va tout lui redonner. Là, avec le recul, il va comprendre un aspect de Dieu qui va le bénir, qui va l'enrichir. Mais nous aussi, on est pareil. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Moi, j'aime le verset 36 tellement. Toute la Bible est dans le verset 36. C'est de lui, la source, par lui, le moyen, le canal, et pour lui, le retour ultime. Tout vient de lui, tout passe par lui, tout retourne à lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Le déroulement de ta vie vient de lui, passe par lui et va retourner vers lui. Si tu sais bien vivre ta vie, tu vas lui apporter honneur et gloire. Et ça dit, à lui soit la gloire dans tous les siècles, amen. N'est-ce pas un beau verset? C'est quand tu comprends que tout vient de lui, tout passe par lui et que tout retourne à lui pour sa gloire. N'est-ce pas que si on comprendrait ce passage-là d'aplomb, on ne chiolerait jamais. Peu importe ce qu'il nous envoie. Jamais, 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 jamais. Même pas une petite étincelle. Parce qu'on sait que Dieu, tout ce qu'il fait est sage et bon. Et ça nous emmène. Et dans le verset 15, donc on a vu son omnipotence, sa souveraineté, son gouvernement universel. On a vu que ça va lui permettre de voir Dieu plus clairement, mais d'un autre côté, ça va l'amener à avoir plus de confusion. Il va voir Dieu de façon plus confusément. Verset 15, « Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. » Il y a des petites contradictions dans ce que Job dit. Job s'est déjà dit troublé par l'absence de Dieu. Verset 8. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Autrement dit, il dit, je suis troublé par l'absence de Dieu. Là, il dit, je suis troublé par la présence de Dieu. Voyez-vous? Un problème, là. Troublé par l'absence, troublé par la présence. Mais là, quelque part, t'as une idée. Le voilà maintenant troublé par sa présence. Quand Dieu cache sa face, les croyants sont épouvantés, mais ils le sont aussi par l'imposante et infinie majesté de Dieu. Il y a deux choses qui épouvantent l'homme. Sentir que tu ne peux pas atteindre Dieu, malgré que dans le cas d'un croyant, on ne devrait jamais connaître ça, mais aussi la présence de Dieu. Si dans nos vies de tous les jours, comme j'ai lu que certains chrétiens y sont arrivés, à sentir la présence de Dieu autour d'eux de façon continuelle, de façon permanente, n'est-ce pas que nos vies changeraient, nos discours changeraient, notre façon de penser changerait, notre manière d'agir changerait? Disons que vous êtes chez vous, là, puis dans votre naturel, vous chiolez un peu, vous dites des gros mots, mais Dieu permettrait là, que dans un instant, vous prendriez pleinement conscience qu'il est là, présent, dans toute sa grandeur, au moment que vous faites vos choses les plus insignifiantes. Est-ce qu'on changerait notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'agir? Bien oui! Et apparemment, certains chrétiens ont grandi au point que tu sens ça d'une façon constante, que Dieu est toujours présent dans tout ce que tu fais, peu importe où tu es, peu importe ce que tu vis. C'est quelque chose. Alors, deux choses qui nous épouvantent, ou soit qu'on prend, qu'on essaye de rejoindre Dieu pour ne le rejoindre jamais, ou de sentir la majesté de sa présence. Pourquoi les Écritures nous disent qu'un être humain, même un saint, on voit Daniel, c'est même pas Dieu, là, c'est l'apparition d'un ange. Et dans le texte, ça dit que les genoux, ils cognent ensemble. Ils voient une créature grande, intelligente, peut-être beaucoup plus puissante que lui, et est mort de peur. Tous les chrétiens qui ont connu des apparitions d'anges ou qui ont vu des manifestations visibles de Dieu sont terrorisés. Parce que quand vous regardez Isaïe, qui est un grand prophète, saint, qui vit une vie sainte, quand il a vu la majesté de Dieu dans Isaïe 6, « Je suis perdu », qu'il a dit. Il a senti toute la misère de son cœur, de son péché, et il a vu la majesté de Dieu, et ça, c'est écrasant. Il faut se rendre compte de ça. Dieu, la présence de Dieu, c'est vraiment la majesté de Dieu. Pourquoi Dieu dit qu'un être humain, même un croyant, ne pourrait pas voir sa face sans mourir? C'est parce que sa présence et la manifestation de tous ses attributs de façon simultanée, c'est tellement pesant que l'être humain ne serait pas capable de se tenir debout d'un coup sec, il mourrait. Alors, autant l'absence de Dieu que vraiment sentir sa présence pour ce qu'il est véritablement, c'est tous les deux une sensation qui amène une certaine confusion. Et dans le verset 16 et 17, ça l'amène vraiment une confusion dans son esprit de façon claire, parce qu'il dit « Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. » Il est en train de dire ce qui me rend confus, c'est pas tellement ce qui m'envoie comme de ne pas comprendre pourquoi il me l'envoie. C'est ça qu'il dit en gros. Job croit possiblement que Dieu l'accable parce qu'il n'a pas su garder le silence dans l'épreuve. Il est davantage étonné par le silence de Dieu que par la gravité, la variété et la durée de ses souffrances. Le silence de Dieu, c'est troublant. Mais on peut le connaître aussi. Si vous lisez des biographies de grands saints ou de grandes saintes, vous allez voir qu'ils ont connu ce qu'on appelle le ciel des reins. Il arrive un moment donné, Dieu permet ça pour des raisons qui ne nous expliquent pas nécessairement. Il permet que c'est comme on sent que le ciel, ça ne monte pas nos prières, puis on sent que Dieu n'envoie pas ses bénédictions. Il appelle ça le ciel des reins. Et tous les chrétiens qui ont connu ça, Spurgeon en parle, presque tous les grands chrétiens en parlent, c'est quelque chose qui est terrorisant. Tu sens comme si Dieu t'aurait abandonné, comme ici, il ne sait plus que tu es là. C'est terrorisant. Et c'est confondant si ça nous amène dans un état de confusion. Alors, il est plus troublé par le silence de Dieu que par la gravité, la variété et la durée de ses souffrances. Il est plongé dans une profonde perplexité et il est bien conscient de sa faiblesse et de sa misère. Sa foi chancelle. Quand on dit un homme est chancelant, peut tomber par en avant, peut tomber sur le côté, peut tomber sur le dos. On chancelle, on ne sait plutôt quoi penser. Alors, il est conscient de sa faiblesse, il est perplexe. Pourquoi Dieu permet des choses qui font tant souffrir et qu'il ne veut pas me dire pourquoi? Ben, dites-vous une chose, que nous aussi, on va en avoir des épreuves dans nos vies, puis que Dieu ne nous expliquera pas pourquoi il nous les envoie. Mais les Écritures nous disent que c'est pour notre plus grand bien, pour nous rapprocher de lui, pour corriger des choses, pour nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais on le sait par la foi. Il faut qu'on exerce ces choses-là par la foi. Je vous avais déjà raconté la missionnaire, je ne me souviens plus de son nom, là, elle avait marié un missionnaire, puis il avait été dans le sud. Puis en arrivant sur son terrain missionnaire, il est transplanté de l'anse par les Indiens, je ne me souviens plus de quelle race. Là. Elle revient aux États-Unis, elle se marie avec un directeur d'école biblique, son mari tombe malade, le cancer du cerveau. Imaginez-vous une chrétienne qui vit ça, là. Son mari est missionnaire, il se fait tuer en allant en mission. Elle revient aux États-Unis, elle se marie avec un directeur d'école biblique. Le gars, apparemment, est mort de cancer du cerveau, qui est, semble-t-il, le plus douloureux possible imaginable. Comment tu peux garder la foi là-dedans? Par les Écritures. Si tu n'as pas les Écritures, tu n'arrives pas à comprendre. Mais mon Dieu, mon mari, il voulait aller te servir. Tu permets qu'il soit un coup de lance dans le corps. Je reviens aux États-Unis, je finis par me retaper un petit peu, me marier avec un homme, et tu permets qu'il meure de la plus souffrante des maladies. Je comprends pas. Comment tu peux arriver à te consoler de ça? Juste pour les Écritures. Par la foi, ce que Dieu dit. Sans ça, tu capoterais littéralement. On a besoin de savoir que nul homme n'est l'architecte de son futur, puisque sa destinée lui a été assignée par Dieu. Je me souviens que quand Daniel Durand nous envoyait un courriel, en bas de chacun de ses courriels, il mettait ce verset-là. Ça m'avait frappé parce que j'aime beaucoup ce verset-là. Jérémie 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Facile à dire, plus facile, plus difficile à mettre en application. De savoir que c'est Dieu qui mène, puis que tu dois accepter les choses qu'il t'envoie avec sérénité, sachant qu'il agit toujours avec sagesse, avec amour et pour des raisons bien précises. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte aujourd'hui? Je dirais la première, apprenons de Job. Lorsque nous sommes dans la souffrance et dans l'affliction, recherchons comme Job le Seigneur. Mais recherchons une plus grande proximité et une plus grande intimité avec lui en tout temps. Bien sûr que quand on est souffrant, on a le désir de se rapprocher de lui. Mais est-ce qu'on devrait le faire uniquement dans ce temps-là? Nous, comme les chrétiens, on dirait qu'on a tendance à se rapprocher du Seigneur juste quand on souffre. Quand tout va bien, pas de problème. Mais on devrait être en tout temps. C'est le secret pour la paix de l'âme. Deuxième application, soucions-nous davantage du jugement de Dieu sur nos pensées, nos paroles et nos actions que celui des hommes. Dieu connaît parfaitement tout ce qui nous concerne et ne se trompe jamais. Soyons aussi à l'écoute de notre conscience et de plus en plus attentifs aux enseignements de la parole de Dieu. Si on revise un petit peu les chapitres, c'est un peu ça qui s'applique à nous aujourd'hui. Troisièmement, sachons qu'il n'y a qu'une attitude acceptable dans les voies providentielles de Dieu dans nos vies. Ce sont quoi? La révérence. Souvenir des perfections, des attributs de Dieu. Se soumettre et la confiance. Peu importe ce que Dieu nous envoie, il faut se souvenir qui il est. Il faut se souvenir qu'il faut se soumettre. Comme Job disait, j'ai plié ma volonté à ce que tu voulais. Et aussi, avoir confiance que malgré la difficulté de ce qu'on vit, Dieu a un but et il mène ça quelque part. Ça a un but et ça a un but pour le glorifier. Et ce n'est qu'avec le temps, quand on a vu le développement dans nos vies, que si tu n'avais pas fait telle affaire à tel moment... J'avais déjà parlé du tapis. L'exemple du tapis, j'avais déjà vu ça dans un livre, je trouve ça intéressant. Les orientaux tissent des tapis avec des fils, mais quand tu le tisses comme à l'envers. Ce n'est que lorsque tu tournes le tapis que tu vois la beauté du motif. Mais quand tu vois juste des bouts de fil dépassés, tu vois rien, tu comprends pas. Alors Dieu agit un peu comme ça dans nos vies. Il nous fait, on va voir que dans le ciel. Ou des fois, avec des flashs que Dieu nous donne, on va voir sa sagesse dans ce qu'il nous a envoyé dans nos vies pour nous faire grandir, pour nous rapprocher de lui. Alors que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré éternellement.